France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. Dans les années 80, c'est à Alain Marcel qu'on devait en France la découverte des grandes comédies musicales américaines. Kiss Me Kate, My Fair Lady, La Petite Boutique des Horreurs, Peter Pan, La Cage aux Folles, au Théâtre Mogador, à l'Opéra Royal de Wallonie, au Casino de Paris ou au Théâtre de la Porte Saint-Martin, des œuvres qu'il avait adaptées en français. Alain Marcel a disparu en mars dernier et nous avons choisi aujourd'hui de vous faire entendre son travail qui passait aussi par l'opéra. En 1983, Hugues Gall lui a proposé la mise en scène d'opéra à l'Opéra de Genève. Ce sera le Barbier de Séville, l'Italienne à Alger, Don Pasquale dans les opéras de Genève, de Liège au Capitole à Toulouse ou à Montpellier. Élève d'Antoine Vitesse au Conservatoire de Paris, Alain Marcel débute comme acteur mais se met à écrire et composer ses propres spectacles dès la fin des années 70, car Alain Marcel était aussi auteur et nous l'avions reçu sur la 42e rue lors de la création de son dernier spectacle en 2010. La semaine prochaine, on va célébrer en musique son œuvre en direct du Carreau du Temple avec ses amis chanteurs et musiciens, mais aujourd'hui nous plongeons dans ses archives en compagnie de son collaborateur artistique Grégory Antoine.
Voilà.
Salopard.
Je voudrais remercier tout le monde pour la merveilleuse ambiance qui a régné durant toutes ces répétitions. Je voulais vous prévenir qu'on va affronter une cabale venue tout droit de New York. Il ne faut surtout pas vous laisser démonter. Ceci est une avant-première. Alors merci à Shakespeare et merci aux 5 ou 6 nègres qui ont passé leur nuit à réécrire ces pièces. Mais soyez sûrs qu'en adaptant cette légère, on aura fait un spectacle d'enfer. Merci, c'est tout.
Another opening of another show. 4 weeks, your anniversary.
Gillian Hamilton au Grand Théâtre de Genève avec un orchestre de 50 musiciens dirigé par Oswald Andrea. L'ouverture de Kiss Me Kate, la comédie musicale de Cole Porter, créée et montée en français par Alain Marcel. C'était en 1991 à Genève et en 92 à Mogador.
Exactement.
Si je me trompe pas, Grégory Antoine, avec, on va dire, la troupe qui va suivre Alain Marcel dans tout son travail autour de la comédie musicale. Il y avait notamment Bernard Allan, Fabienne Guillon, Jacques Verzier et Gilles Vajoux. Bonjour Grégory Antoine.
Bonjour Laurent Vallière.
Merci d'être avec nous et de nous avoir apporté toutes ces archives qui sont rares, à vrai dire. Vous avez été l'assistant, le collaborateur artistique d'Alain Marcel depuis 93. Vous avez collaboré avec lui sur My Fair Lady, si je me trompe pas, oui. Sur Kiss Me Kate, La Cage aux Folles, Don Pasquale. Au départ, il est acteur, hein?
Au départ, il est acteur. Il vient des grandes études classiques. Il fait 9 ans d'études classiques au Conservatoire de Tours, au Conservatoire de Paris, chez Jean-Laurent Cochet. Et puis, il découvre les multiples codes de jeu qu'il y a au théâtre, le code de jeu psychologique, puis aussi toutes les formes de jeu qui ne sont pas psychologiques, qui ne sont pas comme dans la vie. Et c'est pour ça qu'il s'ouvre finalement vers le théâtre musical, puisqu'au théâtre musical, on chante. Donc finalement, c'est un code de jeu non réaliste. Et c'est pour ça qu'il s'ouvre très très fort à tous ces nouveaux univers.
Alors, il se fait d'abord connaître au départ dans une pièce de boulevard, on va dire, qui s'appelle « Les papas naissent dans les armoires », avec Rosie Vart notamment. C'était quoi ça?
C'est le début de sa carrière. Il a effectivement fait des petits rôles comme ça. C'était important pour lui de commencer l'actorat. Quand il est sorti du conservatoire, il s'est rendu compte que, évidemment, on rentre dans un métier, que évidemment ses copains acteurs parfois étaient appelés plus souvent que lui. Donc il a très très vite compris que pour exister en tant qu'artiste, il fallait créer ses propres spectacles, il fallait finalement se mettre en scène et écrire ses propres projets. Donc il a lancé comme ça, dès la sortie du conservatoire, les Pédalos et après les Femmes Fortes. Mais effectivement, il a fait quelques incursions au théâtre et puis au cinéma et également à la télévision où il a eu des premiers rôles. Et puis très très vite, il a eu envie de plus, il a eu envie d'ailleurs. Et donc il est parti vers le développement de ses propres créations.
Donc il y a des pièces de boulevard, et puis ce qui va le faire connaître, c'est en 1979, Essayez donc nos pédalos, qu'il écrit et joue avec Jean-Paul Muel et Michel Dussarin, un pavé gay dans la mare, on va dire, à l'époque où l'homosexualité est un délit.
Tout à fait.
C'était quoi, Essayez donc nos pédalos? Une revue, en fait?
C'était une sorte de revue, une sorte de galerie de portraits de personnages complètement éclatés sur tout l'univers homosexuel. Et puis, Alain a toujours voulu traiter l'homosexualité, pas uniquement dans la partie farce, dans la partie diva, dans la partie travestie, mais aussi dans la partie plus grave, plus dramatique, plus intime, plus profonde, parfois plus dérangeante. Et donc cette galerie de portraits était vraiment à la mitraillette, avec des changements de costumes rapides, des costumes de Michel Dussarin qui étaient déjà très très drôles. Et donc voilà, tous ces personnages arrivaient, racontaient leur histoire et disparaissaient.
Ça a été quand même créé à Avignon et puis après à Paris au Théâtre Fontaine. Alors en 1979, Alain Marcel était au micro d'Yves Moruzzi qui lui demandait quel était l'objectif de ce spectacle. Et Alain Marcel répond l'homosexualité.
On avait envie de faire ce spectacle parce qu'on voulait parler de ce thème-là, de cette manière-là, c'est-à-dire d'une manière un petit peu drôle, un petit peu cynique, et puis en sortant, si possible, des clichés habituels, quand on met ce qu'il est convenu d'appeler des homosexuels sur scène, on les mettrait souvent en scène soit comme des guignols, c'est-à-dire des travestis, tout ça, ce qui peut être très drôle, d'ailleurs, ce que viennent un peu chercher les gens de province le samedi soir dans les boîtes de travestis, ou alors on en parle d'une manière très normalisée, très sage, on les montre comme des personnages qui ressemblent bien à tout le monde, qui choquent personne pour essayer de les faire
quelquefois déchiré.
Oui, c'est ça, avec le cœur qui saigne à blanc et tout ça. Alors nous, on a essayé de sortir un peu qu'il n'y ait pas que les fossiles, la guépière, les bas noirs, les talons aiguilles, d'une part,
et puis d'autre part... Ouais, vous mettez des tutus avec,
Des tutus, oui, mais enfin, il y a, vous savez, dans ce spectacle, il y a 45 personnages.
C'est certainement l'une des photos les plus connues, celle que l'on a vue dans la presse, la photo, vous trois en tutu, et en papillon.
Mais il y a plein d'autres personnages, il y en a 45, donc joués par 3 acteurs, il y a au moins 35 hommes, il y a 4 travestis, 2 femmes, et même un hétérosexuel dans le spectacle.
Oui, c'est le pape...
C'est le pape Picard.
Oui, encore que lui, on peut se poser des questions.
Ça fait 3000 ans qu'on nous poursuit, ça fait 3000 ans qu'on nous punit, de ne pas être comme il faudrait qu'on soit, d'insulter la morale et la loi. On a fait des camps de concentration, on nous a grillés avec passion, on nous a trouvé le supplice du pal. Pour remonter jusqu'aux amygdales, on nous a même fait couler dans le cul des
bassines entières de plomb fondu. On nous a pris des morceaux de cerveau pour essayer de nous faire plus réglo.
Jean-Paul Muel, Michel Dussarin, Alain Marcel, nous revoilà. C'était la chanson qui ouvrait « Essayez donc nos pédalos » en 1979. Et puis quatre ans plus tard, Alain Marcel écrit et compose avec la même acidité, les mêmes acteurs. Rion, femme forte, vous êtes venu avec une archive très méconnue, une chanson du spectacle qui s'appelle « Bonbons et caramel ». C'était quoi Rion, femme forte? Et la chanson qu'on va entendre, ça parle de quoi?
Rion, femme forte, c'est un spectacle ni féminin ni féministe, mais qui parle de la femme, d'une femme en général, qu'on prend pratiquement à sa naissance et qu'on va amener pratiquement jusqu'à sa mort, et on va raconter effectivement comment elle est forte, comment elle arrive à prendre sa vie en main, son destin en main. Et c'est donc un spectacle où il y a les trois pédalos et trois femmes qui viennent se rajouter à l'équipe. Et du coup, tous ces gens-là font une galerie de portraits de personnages féminins. C'est un spectacle plus travaillé, plus abouti, avec une grosse orchestration de Jean-Claude Dequéant. Et Bonbon et Caramel, que nous allons écouter, est une tranche de vie. L'histoire de trois ouvreuses à l'opéra qui, pendant les spectacles, évoquent d'une manière drôle et tendre un sujet majeur de la femme, la ménopause.
Achetez mes bonbons, mes caramels, mes esquimaux, mes chocolats. Depuis 30 ans que nous faisons les 100 pas dans la salle et les couloirs de l'opéra. C'est nous les rats, c'est nous les rats de l'opéra.
C'est moi le vestiaire, à moi les fourrures.
J'éteins les lumières à la fermeture.
Et moi je change les savonnettes et le papier toilette.
Les opéras, on les connaît sur le bout des doigts. Voilà les rats, voilà, voilà les rats de l'opéra. Tandis que le bruit de l'amour, de la haine, traverse en écho les balcons et la scène. Petit personnel, on se repose, on écoute les virtuoses en parlant. Sublime des chanteuses internationales nous aide à chasser la peur de la totale. Voici que vient la ménopause, c'est la dernière métamorphose et plus rien ne nous indispose.
Achetez mes bonbons, mes caramels, mes esquimaux, mes chocolats. La bouffée chaleur dans la station de métro, la suée qui fait fondre les esquimaux. C'est surprenant quand vient l'heure de n'être plus maman.
Je suis glacé, je me sens retourné,
je meurs de chaud, j'ai froid dans le dos.
C'est pas toujours la fête de ranger les serviettes.
Oui, ça me gêne de transpirer sous ma gaine. Je suis pleine de fuite, on ne sait même plus compter jusqu'à 28. Et même si c'est dur de se savoir inutile, même si c'est très dur de devenir stérile, après une trop forte dose, le jour n'est pas toujours très rose. Ça repose, la ménopause. Adieu les petits retards, adieu les grandes frayeurs, adieu le doux tic-tac, on arrête le moteur. Hier soir les Troyens de Berlioz, demain le chevalier à la rose. Aujourd'hui, la ménopause.
Achetez mes bonbons, mes caramels, mes esquimaux, mes chocolats. Nous n'aurons plus jamais de montée de lait, nous allons enfin jeter nos stérilets. La liberté, nos maris vont se décontracter.
Maman, maman, mes anglais me lâchent.
Maman, maman, j'ai de la moustache.
Tant pis, le principal c'est garder le moral.
c'est reposant de ne plus pouvoir être maman. Bon débarras, c'est nous les plus heureux à l'opéra. Voilà.
Trois ouvreuses à l'opéra qui parlent de leur ménopause. Une chanson intitulée « Bonbons et caramel » écrite par Alain Marcel en 83 dans son spectacle « Rayon femme forte ». Trois ouvreuses interprétées par Jean-Paul Muel, Michel Dussara et Alain Marcel.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Avec Grégory Antoine, collaborateur artistique de longue date d'Alain Marcel. Alors là, on était en 1983, et là, comment passe-t-il en 86 à la comédie musicale américaine ?
Bien écoutez, il est au départ dans un rôle qui n'est pas du tout le sien. Il prépare les auditions de La Petite Boutique des Horreurs, qui sont produites par Paul Ederman et Claude Martinez, à l'époque grand producteur de Coluche et de Leluron, entre autres. Et Howard Ashman, qui est le parolier, le lyriciste de La Petite Boutique, mais aussi le metteur en scène à Broadway, vient à Paris pour l'audition du cast français. Et Alain Marcel lui prépare 4 ou 5 acteurs, chanteurs, par rôle. Et il y a quelque chose de merveilleux qui se passe entre eux, une vraie rencontre artistique, un mélange entre effectivement le côté très théâtral, le plaisir de la prosodie. Les auditions plaisent vraiment très très fort à Howard Ashman, notamment à Fabienne Guillon qui fait un gros effet à Howard, qui a évidemment dans la tête Helen Green qui est un mythe américain, mais Fabienne a quelque chose de très très fort et une qualité de sincérité incroyable. Et l'adaptation qui est chantée en audition ne plaît pas beaucoup ni au chanteur, ni au producteur, ni à Howard. Et Howard, apprenant que Alain est par ailleurs évidemment auteur-compositeur, Alain propose éventuellement de faire un essai et Howard convainc les producteurs de laisser Alain Marcel faire un essai sur une chanson très importante du spectacle, Somewhere That's Green, la grande chanson d'Audrey. Et ils vont se voir quelques après-midi, ils vont décortiquer la chose, ils vont apprendre à se connaître. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe et Alain va amener quelques jours après au cœur du verre et tout le monde va trouver ça formidable et Alain va être nommé adaptateur puis metteur en scène de La Petite Boutique des Horreurs à Paris.
On va écouter cette chanson au cœur du verre. Ce qui est intéressant, c'est Howard Ashman, il est connu surtout en France pour avoir écrit les paroles de dessins animés ensuite de Disney comme La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Mais ils avaient quelque chose de commun, on a entendu tout à l'heure Bonbons et Caramel. Les mélodies sont toujours un petit peu entre guillemets sirupeuses, mais par contre les paroles sont très mordantes, très acides. Et notamment par exemple cette adaptation donc en français de La Petite Boutique des Horreurs. Alors on resitue un peu l'histoire, c'est inspiré d'un film de série Z de Roger Corman. C'est quand même une histoire d'une plante carnivore qui fait le succès d'un fleuriste. Et puis dans la boutique, Audrey, une jeune femme violentée par son petit ami dentiste, est secrètement amoureuse de son collègue, aussi fleuriste, Seymour. Et voilà, au milieu du premier acte, elle chante ses blessures domestiques. Elle a quoi? Un œil au beurre noir?
Elle a un œil au beurre noir, elle a un bras en écharpe. Elle est exactement le cliché américain de la baby doll blonde peroxydée qu'on peut trouver dans Victor Victoria ou qu'on peut trouver dans Guys and Dolls. Cette petite jeune fille fragile, à voix claire, à voix aiguë, qui tout d'un coup se lamente assis sur sa poubelle et qui va parler de ses malheurs et qui devant tous ses malheurs finalement tombe en amour du jeune Seymour qui est le petit fleuriste de la boutique. Et puis cette petite chose toute fragile va tout d'un coup prendre son énergie à travers l'amour qu'elle va apporter à Seymour.
Seymour bien sûr est unique, mais j'ai connu ce demi-sadique, d'où cet œil au beurre noir et ce plâtre à mon bras. Seymour, je sais, n'est pas grand. On s'en fiche, il est si beau dedans. Et je rêve d'un endroit où l'un et l'autre on s'aimerait tout bas.
Tu vois quoi comme endroit? Une salle de réanimation?
Non, c'est rien qu'un rêve de tous les jours. Un petit lotissement qui me trotte dans la tête. Oh, pas si cher qu'à la campagne, mais pas trop loin de l'autoroute. Une toute petite rue dans un tout petit faubourg, à 100 lieues du fond de la ville. Un endroit tellement doux, tellement vert, où tout le monde aime tondre la même petite pelouse devant la même petite terrasse, où chaque maison est si propre et si jolie parce qu'elle ressemble à toutes les autres. Oh, j'en rêve depuis toujours, rien que moi, mon grille-pain, et un gentil petit homme comme Seymour.
Une maison tout en dur, quatre murs rien qu'à nous, une jolie grille jamais rouillée, un vrai tout à l'égout, un batteur et un mixeur sur un très gros frigidaire, avec trois chambres en sous-sol au cœur du verre. Ça sent bon l'aérosol au cœur du verre. Je sais faire en un clin d'œil tant de trésors surgelés, qu'il me serre et qu'il ronronne en mangeant son grand plateau télé. Oui, me voilà. Te voilà, prince charmant. Trois enfants font des sourires sous un soleil au couchant. Cette photo, je l'ai vue 100 fois dans mes fiches ménagères.
Une jolie mélodie, mais par contre un personnage un peu ridicule, en fait, que ce personnage d'Audrey, c'est ça? Elle rêve de plateau télé et de surgelé.
Elle rêve de toutes les choses les plus terribles pour nous Français, avoir un petit lotissement bien rangé, tout le monde pareil. C'est terrible, mais c'est un personnage très très important dans la comédie musicale américaine.
Et Fabienne Guillon, qui incarnait ce personnage, a été nommée, c'était rare, hein, parmi les...
Oui, Molières. Elle a été nommée parmi les révélations féminines, ce qui est assez rare dans les Molières en France. C'est assez rare de nommer un artiste de comédie musicale.
Alors Alain Marcel va donc se mettre à monter des comédies musicales américaines en même temps que des opéras. Mais voilà, on l'a compris, il veut les présenter en langue française. Et il s'attelle, on va dire, avec perfectionnisme aux adaptations. Et il nous en parlait en 2014.
Je suis surtout très très maniaque aussi pour les adaptations, pour que ça tombe bien, que ce soit rythmé comme il faut que ce soit. Je fais très très attention aux sonorités, surtout quand je fais Sondheim et Cole Porter, chez qui le jeu avec les mots était très important, et voilà.
Si je vous demande de chanter un extrait de Kiss Me Kate, là, comme ça, spontanément, une de vos adaptations, il y a une parole qui vous traîne encore en tête ?
Non, pas vraiment, non, pas vraiment. Si, il y a un truc dont je suis assez content et que je sais toujours par cœur et qui est dans Tour d'Arnaud, c'est d'après les incollables docteurs qui savent tout de l'amour physique, l'homme moyen exige un peu de chaleur quand il veut faire sa gymnastique, mais quand le thermomètre fait des bonds, quand la météo souffle chaud, l'homme le plus fort dans son effort prend l'eau. Voilà, je suis particulièrement content de l'agencement du sens des mots, des sonorité dans ce genre de truc, mais enfin bon.
Adaptation française par Alain Marcel de Too Darn Hot, extrait de Kiss Me Kate. Pourquoi Grégory Antoine, il voulait présenter les comédies musicales en français ?
Bah écoutez, c'est extrêmement simple. On est dans un univers au cinéma, à la télévision, où tout à fait logiquement, on veut comprendre de quoi il s'agit. Et donc, pourquoi est-ce qu'en comédie musicale, il y aurait une sorte d'habitude française qui serait une sorte d'écoute flottante où on comprendrait approximativement le sens général, mais sans vraiment avoir les détails? Est-ce que vous accepteriez au cinéma de revoir un film en peul ou en swahili sans sous-titres en vous disant « je comprends à peu près la situation en regardant l'image » Il n'y a absolument aucune raison que ça arrive en comédie musicale.
En 2001, Alain Marcel était l'invité de Jürgen Plech sur France Culture, une émission qui s'intitulait « Traduis-moi un succès ». Il présentait plusieurs adaptations, notamment de chansons de Stephen Sondheim. En voici un extrait, le moment dans Sweeney Todd,
On connaît le film hein, avec Johnny Depp. C'est l'histoire d'un barbier qui égorge ses clients. Et la charcutière d'à côté se met à imaginer de faire des tourtes avec les cadavres des hommes qu'a égorgé le barbier Sweeney Todd. Et tous deux, ils imaginent un peu le goût de chacun en fonction de leur métier. Jacques Verzier, Caroline Rolands et au piano Patrick Laviosa.
Un cadavre, Mr. Todd. Qu'est-ce qu'on va en faire ?
Plus tard, Mrs. Lovett. À la nuit, on le traîne dans un coin tranquille et on l'enterre.
Vous savez bien, des fois il me vient de l'idée dans la tête et je me disais, c'est une honte au fond.
Une honte ?
Tout ce gâchis qui se passe. Un bonhomme si rond. Quoi comme nom ? Ça laisse guère de traces. Faut pousser le boulot. Les vieilles dettes s'entassent. Tout le monde veut son lot, son cadeau. Vous me suivez en gros ? Non ? Tout ce gâchis qui se passe. Ce que je dis, vu le prix de la viande, qu'est-ce qu'il est ? Quand on en a, si on en a. Bon, ben tu l'as. Tiens comme la Mouni dans sa boutique de tarte. Elle qui se fait du beurre en tartinant du chat sur des bouts de pain. Sauf qu'avec un chat, il y en a pour 6 ou 7 en tirant bien. Et je suis sûr que de goût, y a rien qui tient en face.
Mrs. Lovett, quelle charmante option, éminemment pratique et tellement
abondante. Pensez
chez vous, Mrs. Lovett, comment si longtemps j'ai pu faire sans vous, je ne sais pas.
Je sais délectable,
mais aussi indétectable. Quelle jus, quelle perle, c'est quoi ce son qui traverse la terre?
Quoi, Mr. Todd, donc ce son?
Ce bruit de mâchoire qui résonne dans les airs.
Oui, Mr. Todd, ça tourne rond.
C'est l'homme qui bouffe un autre homme, mamie.
Et oui, qui sommes-nous pour nous en plaindre ici?
Les temps sont sans pitié, Mrs. Lovett. Des mesures sans pitié s'imposent.
Et voilà, directement du four.
C'est quoi, ça?
Du prêtre. Prenez donc du prêtre.
Mais c'est vraiment bon.
Aussi bon que ça peut l'être. Comme c'est préservé du péché de la chair. Ça ne durcit guère.
Y a pas mal de graisse.
Seulement dans les fesses.
Mais vous n'auriez pas du poète à la pièce.
Non, c'est immortel. Et le défaut du poète, c'est que ça fait du salpêtre. Goûte le prêtre.
C'est divin. Moins acide que de l'évêque, il me semble. Mais plus mielleux que du moine.
Et bon pour le commerce. On s'en mettrait toujours davantage. L'ennui, c'est qu'il n'y en a que le dimanche. C'est bon, l'avocat.
Tant que le prix est bas.
Comment d'autres choses en fin de repas? Celui-là, on l'avale pas deux fois.
Quelque chose de maigre.
Marin britannique de la royale. Carré et très loyal. Intègre, en tout cas pas aigre. Avec ce petit goût rapporté de chez les nègres.
Il y a du baron sur le charbon.
Oh mais non monsieur, les bons yeux voient bien que c'est plus cagneux.
C'est amer comme du vicaire.
Non, ça n'est qu'un vieil anxieux. C'est faire.
L'histoire du monde, c'est toujours en gros.
Ni tombeau, ni phrase, ni chant de louange pour les défunts.
Pour ceux d'en bas, de servir ceux d'en haut.
Comme tout le monde se rase, on va proposer des tas de parfums.
C'est très plaisant de se dire que là,
tous ceux d'en haut vont servir ceux d'en bas. Bon, voyons, on a du sapeur.
Plus à cœur.
Du boueux.
Plus goûteux.
Maraîcher.
Plus haché.
Communiant.
Plus saignant.
Serrurier. Un petit bout de tailleur.
Un petit goût d'ailleurs.
Si on aime bien cuit, roulé dans la suie, il y a du ramoneur. Du gros financier, droit sur un grand pied.
Il fait pas si gros.
C'est un poivreau, ou plutôt le caissier. Pas très bien garni, un peu racorni.
Auriez-vous du bidle?
Sous peu qu'on m'a dit. Bidle est puant, faut le graisser, ce qui ne saurait le faire cesser de l'être. Reste le prêtre.
L'histoire du monde en deux mots m'a fait.
Oh, Mr. Todd, c'est quoi vraiment?
C'est celui qui bouffait, c'est celui qui est bouffé.
Mr. Todd, là, Mr. Todd, c'est celui qui vend.
Fais pas le détail entre petit et gros. On sert le monde entier, oui, tout le monde entier.
Et tout le monde entier à flot.
Adaptation par Alain Marcel de A Little Priest de Stephen Sondheim dans la comédie musicale Sweeney Todd. C'était Jacques Verzier et Caroline Rolands. Vous me disiez, Grégory Antoine, c'était son fantasme, son rêve d'adapter ça en français.
Son fantasme absolu.
Cette comédie musicale.
Oui, bien avant, d'ailleurs, qu'on ait une version originale à Paris, au Châtelet. C'était vraiment son fantasme, Sondheim et son Sweeney Todd. Il m'a dit 100 fois, je promets de ne pas mourir sans avoir transposé un peu de cet air-là en France.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui lui plaisait?
Le jeu des sonorités, entre guillemets, Sondheim, l'intellectuel de Broadway. Alain avait quelque chose de fort avec la comédie musicale qui n'était pas uniquement le youp-youp, la danse, les claquettes, mais aussi profondément le sens. Et Sondheim a toujours apporté ça dans ses comédies musicales et c'est quelque chose qui était très important pour Alain.
Alors après La Petite Boutique des Horreurs en 86, Alain Marcel va monter nombreuses autres comédies musicales en France, en langue française ou en Belgique et en Suisse. Peter Pan, Kiss Me Kate, My Fair Lady, ça c'était à l'Opéra de Liège, La Cage aux Folles. Souvent, c'est marrant parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus trop, une sorte de coproduction théâtre privé, théâtre public, oui. Et souvent avec des difficultés. Écoutez-le, c'était lors de la dernière représentation de Kiss Me Kate au théâtre Mogador. Il est un peu amer.
Voilà, c'est un drôle d'insuccès parisien qui va nous laisser, en tout cas en ce qui me concerne, pas mal d'amertume, de déception et de désillusion, et je dois dire un peu de colère. J'ai rarement eu l'impression d'avoir autant gâché mon travail. Tout ça est très chargé d'émotions, mais je vous remercie tous d'être là.
Il remercie les acteurs, mais il parle de gâchis, de déception. Pourquoi il dit ça, hein?
Oui, Kiss Me Kate était une production absolument merveilleuse. Hugues Gall et Fernand Lombroso ont vraiment donné les moyens. Il y a un gros orchestre, il y a des collaborateurs, Louis Bercutte, vraiment des gens formidables. Il y a une équipe absolument géniale. Et puis voilà. Et puis à un moment, le problème du succès parisien, la promotion, un grand théâtre où il faut effectivement remplir 2000 sièges par soir à Mogador, 1008, un gros orchestre, des gros moyens, des problèmes de rentabilité à Paris toujours. Hein, évidemment sur la comédie musicale, au théâtre privé, il faut que ça remplisse. Et quand ça remplit pas et qu'on a vraiment créé et pondu une pépite comme l'était Kiss Me Kate, évidemment c'est très difficile, c'était très lourd. Voilà, une forme de désillusion, parce que gens étaient absolument hystériques dans la salle.
Il l'avait créé au Grand Théâtre de Genève avec beaucoup de moyens, et après quand il est arrivé à Paris, il a dû réduire la voilure, c'est ça?
La production était la même, il y avait un tout petit peu moins de musiciens dans la fosse, parce qu'évidemment à 50 musiciens au lyrique, on peut pas avoir ça à Paris, mais enfin, ils étaient entre 25 et 30 dans la fosse à Mogador, ce qui est assez considérable, il n'y a plus ça évidemment maintenant, donc ça fait une grosse masse salariale évidemment tous les jours, et quand on a 1000 personnes hystériques mais qu'on sait qu'il en faut 1008, eh bien il n'y a pas assez de rentabilité, le spectacle s'arrête, et pourtant les gens qui sont là trouvent ce spectacle absolument merveilleux. Et évidemment, quand on est comme ça, auteur, metteur en scène, on laisse ses interprètes défendre un spectacle après la première. Le spectacle appartient au public, le spectacle appartient aux gens. Et si les gens ne sont pas assez nombreux, eh bien, le spectacle s'arrête. C'est la dure loi du métier.
Alors, un autre spectacle ne va pas trouver son public en 99. C'est l'adaptation. Alors là, pour le coup, on est dans un spectacle très flonflon, très joyeux de La Cage aux Folles. L'adaptation en comédie musicale du film et de la pièce de théâtre de Jean Poiret. Et vous êtes venu avec un extrait. Il n'y a pas eu d'enregistrement. Moi, j'étais tellement content de entendre à nouveau et de pouvoir faire entendre aux auditeurs, eh bien, quelques extraits, notamment cet extrait. Voilà. C'est le moment où Patrick Roca, qui incarne Albin, qui est donc, on le sait, le compagnon de Renato, eh bien, se transforme, comme chaque soir, dans ce cabaret transformiste de Saint-Tropez, en Zaza Napoli. Il est à sa coiffeuse. Et voilà, il ressent pas tous les soirs la plus grande joie. Il est même parfois un peu déprimé. Un titre qui s'intitule Mascara et une transformation à vue pour le spectateur.
Une fois de plus, je suis triste et lassé de ce vieux visage que je vois. Une fois de plus, il est temps d'être un autre, cet autre tout autre que moi. Combinant à plaisir la douceur féminine et le nerf masculin, je m'installe avec art un précieux atelier de pinceaux et de fond de teint. Qu'une seconde je sente que ma venue au monde n'a été qu'un gâchis, et j'applique un long trait d'eyeliner là, relevant ma paupière avachie. et je me redresse encore. Dieu, je progresse encore. Quand la vie me file des coups de vache encore, mon vieux sens de l'humour dégringole très bas. C'est là qu'une bonne fois, je me lâche encore. Je rajoute une petite touche de mascara. Chaque fois qu'une ride me piège encore, gavé du marathon qui me laisse à plat, j'abaisse aux toilettes le siège encore. Je rajoute une petite touche de mascara. Et tout devient truc en plume, truc en perles, truc en strass. Quand c'est d'un œil fardé que l'on voit tout. Quand on se sent impeccable, adorable, admirable, le monde autour semble enfin aussi beau que nous. Pour peu qu'en chemin un grand choc me rompe encore, me fasse appeler à l'aide et me laisse en plan, je vous plante les talons, mes pompes encore. Et vlan, vilain canard, fait signe blanc. Alors quand je perds ma vieille boussole, je ressors dardard, ma reine des folles. Je rajoute une petite touche de mascara. Et tout devient plume d'autruche, patchouli, chinchilla. Quand je me fais rentrer le bide tout en me guettant dans le train, oui, tout devient lumineux, luxueux, fabuleux. Tout ça parce qu'Albin dégage et que Zaza revient. Pour peu qu'un matin je me réveille ronchon encore, vidé de mon bel orgueil, le moral vaincu. Je m'accroche à mes faux nichons encore, et là, littéralement, je me botte le cul. Qu'il fasse très moche, que tout soit flou, et je mets du rouge sur l'autre joue. J'endure bien mieux le petit matin en lingerie fine et blanc satin. Que la nuit soit triste et sans sommeil, et je pince une pierre à mon oreille. Je rajoute une broche à deux petits carats et la dernière touche de mascara. Chinchilla, le passe, une autruche, lumineux, luxueux, voilà.
Patrick Roca en 1999, qui se transforme à vue sur scène de Albin en Zaza dans La Cage aux Folles. Vous me disiez, Grégory Antoine, vous qui avez travaillé avec Alain Marcel à l'époque, c'était une vraie performance d'acteur.
Oui, on a beaucoup répété. Patrick Roca avait évidemment aucune idée et aucune expérience de travestissement. Et lui apprendre à poser des jumbo fossiles face publique, sans miroir, en chantant, en enfilant sa grande robe avec sa gaine qui lui serrait le ventre et le torse, c'est un souvenir assez mémorable. Il a tout à fait réussi à le faire et c'est vrai un moment très émouvant dans le spectacle de ce garçon qui pouvait avoir une allure de rugbyman et tout d'un coup se transformant en une diva de la nuit. Voilà, c'était un très joli moment.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Avec Grégory Antoine, on parle d'Alain Marcel aujourd'hui, auteur, metteur en scène, compositeur, acteur. Alors on a bien compris qu'en 1999, en fait c'est presque sa dernière grande production. Il va continuer à faire des comédies musicales qu'il va écrire, qu'il va composer, mais plutôt... dans des petites formes, c'est ça, il réduit la voilure.
Oui, il rêve surtout de revenir à ses propres créations, où il est maître de tout. Et il a comme ça des projets qu'il a en tête depuis longtemps, notamment ce grand spectacle sur Sarah Bernhardt. C'est quelque chose qu'il a pratiquement depuis 30 ans. Et tout d'un coup, il se dit, je vais aussi travailler pour moi et aller au bout de mes idées et au bout de mes créations et les formater à ma sauce, à ma taille.
Alors, il y aura d'abord en 2004 le Paris d'Aziz et Mamadou. C'est pour l'Opéra de Paris, une petite forme de banlieusard, Aziz, le petit maghrébin, Mamadou, le petit africain, qui se balade dans Paris et rencontre des monuments qui parlent, notamment un soldat inconnu. Et puis la suite de Essayer donc nos pédalos en 2010. Ça, c'est au théâtre du Rond-Point. Ça s'intitule Encore un tour de pédalo. On a eu la chance de recevoir Alain Marcel et sa troupe en direct sur la 42e rue. Et on a pu aussi découvrir un aspect très particulier de la façon d'Alain Marcel de travailler. On a dit qu'il était perfectionniste, mais il pouvait aussi écrire à la dernière minute. C'est ce que nous racontait Stan Kramer, le directeur musical du spectacle. On était vraiment à quelques jours de la création et il attendait toujours la partition de la chanson finale.
C'est une habitude à prendre en fait, mais qui se gère très très bien au quotidien. Alain m'amène une mélodie la veille en me disant j'ai fini à 5h du matin, il faut absolument... Et le lendemain, bon bah moi c'est à mon tour de travailler jusqu'à 5h du matin pour faire l'arrangement, l'amener et le faire répéter au chanteur le lendemain.
Voilà.
Mais c'est très bien, c'est comme ça que naissent les grandes idées.
Et ça marche toujours. Hein.
Mais oui, comme je me tue à le dire depuis un mois et demi, les mélodies que m'amène Alain ont matière à être arrangées. C'est des mélodies qui inspirent un arrangement. C'est pas des genres de mélodies où on se dit tiens qu'est-ce que je vais encore faire là-dessus, j'ai pas d'idée. Bon, pas du tout. On trouve une mélodie avec un texte très porteur et on se dit bah voilà, là les quatre voix je les entends, on va faire ça, et on envoie la sauce, et le lendemain, bah, arrive la partition. Mais, merci les hétéros, j'attends toujours la partition que je
bravo, bravo, merci chers hétéros, ça s'appelle, et on la chantera la semaine prochaine.
Vous me disiez quoi, Grégory?
Cette chanson, on ne la chantera jamais. Elle n'existera jamais.
Il y avait une raison pour laquelle il écrivait au dernier moment.
Oui,
c'était quoi?
Oui, il était vraiment très très attaché à écrire absolument sur mesure pour ses interprètes. Et donc, évidemment, il fallait être en répétition pour connaître exactement ce qu'il pouvait donner, etc. Et donc, il leur faisait à chaque fois des choses très 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 adaptées à eux. Et donc, évidemment, il écrivait tard.
Si nous les nantis avons tant et tant lutté pour que naisse et qu'enfin paraisse, que s'invente et se réinvente, pour qu'existe et qu'enfin persiste, s'institue et se perpétue,
le droit vital d'absolue visibilité.
Si tous les soumis se sont tant et tant butés à se taire et à se défaire,
à se tordre et à se faire mordre, s'affliger et se fustiger,
et souffrir jusqu'à en pourrir,
la loi vitale d'absolue invisibilité, c'est que tous nés d'une femme, tout près d'un homme, qui ne rêve de vieillir sans drame, qui ne rêve de vivre en forum, qui croit fatal son absolue nuisibilité.
Si loin d'être une gêne, nous étions un vent contraire, très ténu et très continu, incessant et très caressant,
repéré mais très éthéré,
incernable et inévitable,
une loi banale d'absolue indispensabilité.
Si, comme l'oxygène, nous étions une part de l'air, invisible autant qu'intangible, incolore autant qu'inodore,
impalpable et indiscernable,
respirable et irremplaçable,
un choix total d'absolue inexistentialité.
alors tous nés d'une femme, tout près d'un homme. Nous pourrions nous humer sans drame, nous pourrions nous sentir en somme, un choix total d'absolue complémentarité. Tous nés semblables, tous comme une femme, qui ne rêve de grandir son âme, qui ne rêve de vivre en forum, seule voie fatale d'absolue multipolarité. Qu'en sera-t-il de ma vie? Et qu'aurais-je à garder de joli? Présent, passé, quelques baisers entre amis. Qu'en sera-t-il de mon temps? Et qu'aurais-je à garder de troublant? Présent, futur, quelques piqûres entre amants. Qu'en sera-t-il de mes jours? Et qu'aurais-je à garder d'un peu lourd? Passé, présent, quelques élans entre amours. Qu'en sera-t-il de ma vie? Quand viendra l'instant du dernier cri? Entre amants, entre amours, entre amis. Quand rien n'est là pour longtemps, j'aimerais bien emporter en partant un mot, une feuille, un petit clin d'œil entre amants. Quand rien ne vit pour toujours, j'aimerais bien l'emporter du séjour. Une tasse de thé, un soir d'été entre amours. Quand rien atteint l'infini, j'aimerais bien conserver de cette vie un petit coup de pouce, une soirée douce entre amis. Qu'en sera-t-il de ces gens?
Quand viendra l'instant de l'écran blanc?
Quelques temps, quelques jours, quelques nuits. Entre amants, entre amours, entre amis.
Jamel Menan, Steve Brudet, Philippe Davila, Yoni Amar, les quatre personnages homosexuels de confessions différentes, héros de Encore un tour de pédalo, c'était en concert sur la 42e rue de France Musique, avec au piano Stan Kramer sous le regard de Alain Marcel. En 2009, enfin, Alain Marcel réalisait son rêve. Grégory, vous nous avez un tout petit peu parlé. Une comédie musicale sur Sarah Bernhardt, la grande tragédienne, célèbre des deux côtés de l'Atlantique. Une œuvre, l'opéra de Sarah, qui reçoit en 2009 le Molière du théâtre musical, avec Jérôme Pradon en unique acteur. Vous nous avez apporté, Grégory, un titre inédit qui figurait dans la deuxième partie qu'on n'a jamais vue, en fait.
Oui.
Voilà, c'est une histoire un peu triste quand même, l'opéra de Sarah, puisqu'en gros, il a écrit deux parties, mais on n'en a vu qu'une. Et là, en plus, la chanson que vous nous avez apportée, c'est une chanson qui s'intitule, alors qui est vraiment, on a l'impression que c'est du Alain Marcel tout craché, ça s'appelle « Pour l'amour du théâtre ». Elle est interprétée par Sarah Bernhardt, donc Jérôme Pradon. Mais au départ, ça devait être un grand numéro, c'est ça?
Voilà, c'était la résolution du titre. Pourquoi appeler le spectacle l'opéra de Sarah? Parce que tout d'un coup, dans cette chanson, après un grand spectacle en deux parties, tout d'un coup, l'orchestre rentrait petit à petit dans le piano de Damien Roche et on construisait comme ça un grand numéro vocal et un grand numéro orchestral sur un grand credo de la vie de Sarah Bernhardt.
Alain Marcel nous avait raconté la genèse de ce spectacle, l'opéra de Sarah.
Ça, c'est une idée que j'ai eue il y a 25 ou 30 ans. Pendant la tournée de mon premier spectacle, les pédalos, à l'époque, les mémoires de Sarah Bernhardt ont été rééditées aux éditions des femmes. Et à l'époque, j'avais beaucoup travaillé dans le féminisme avec mon ami Yannick Bellon, qui m'avait fait lire des livres, qui m'avait fait lire Le Deuxième Sexe, qui m'avait fait lire Du côté des petites filles, de Bellotti, etc. Donc je me suis dit, tiens, mais pourquoi des éditions féministes éditent Sarah Bernhardt? Puis j'avais jamais lu ses mémoires, donc je les ai lues. Et tout de suite, je me suis dit, c'est un spectacle musical. C'est un biopic, c'est un biomusical. Je me suis dit, tout de suite, c'est un truc qui pourrait faire une comédie musicale à l'anglo-saxonne en France et plaire aux Américains.
Mais qu'est-ce que ça avait de musical?
Ça n'avait rien de musical, mais ça me paraissait être une histoire tellement délirante, en plus que les Anglais adoraient, puisque les Anglais connaissent mieux Sarah Bernhardt que nous. Il me semblait que c'était, s'il devait y avoir un French musical qui devait se faire avec des grands moyens, il me semblait que ça devait être ça. Donc à l'époque, on me demandait, qu'est-ce que vous auriez envie de faire comme comédie musicale si c'était une création? Je disais toujours, la vie de Sarah Bernhardt en français en comédie musicale, ça plairait aux Anglais. Évidemment, ça ne s'est jamais fait. Et puis un beau jour, je me suis dit, quand même, ce spectacle que j'aimerais tant faire, eh bien, puisque je n'aurai jamais les moyens pour le faire en grand, je vais donc faire un personnage tout seul qui raconte le spectacle à lui tout seul. Donc au départ, dans ce spectacle, le personnage devait non seulement raconter l'histoire de Sarah Bernhardt en jouant tout le monde, ce qui a été le cas, mais il devait aussi raconter le spectacle lui-même, c'est-à-dire il devait raconter les décors, les costumes, etc. Bon, comme ça aurait été trop long, déjà là c'était très long, j'ai laissé tomber cet aspect, puis je me suis dit, ben voilà, le personnage, il raconte la vie de Sarah Bernhardt.
J'ai croisé le théâtre au sortir de l'enfance, à demi par hasard, sans appel et sans choix, comme une affaire de chance, et si l'on veut, de foi, je crois. J'ai choisi le théâtre en mon adolescence, un peu par attirance ou par obligation, avec obéissance et si peu de passion, au fond. J'ai porté le théâtre en ma vie tout entière, avec mon exigence et mon sens des affaires, ce goût de la licence et ce poignet de fer. J'en suis fier. J'ai laissé le théâtre à l'instant de ma mort, changé de pied en cap ouvert jusqu'au tréfonds, bousculé dans ses lois, de la cave au plafond. Pour l'amour du théâtre, j'ai décuplé le temps. En 79 ans, que moi seul ai compté, pour l'amour du théâtre, j'ai fait briller le fond. En 63 saisons, encore inachevées, l'amour du théâtre, j'ai fait vibrer le bout en 18 000 rideaux, dont pas un n'est fermé. C'est l'amour du théâtre qui a forgé sa rare, composant l'opéra mon unicité. Et c'est ce corps d'albâtre, si mince et si ductile, qui me fut si utile pour que célébrité devienne éternité. Je bénis mon étoile et je bénis ce vent qui m'ont poussé en scène au temps du jeu vivant, quand l'art était langage et dialogue et discours. Je bénis ce hasard qui m'a fait naître au temps où tout l'art de l'acteur se produisait content, en un forum intense où rien ne tournait court. De mes mises en scène, que reste-t-il? Ces idoles sereines, qu'en reste-t-il? La perte d'haleine ou le vrai fil? De tous ces idolâtres qui m'ont porté au nu, du Panthéon, de ces folles, ces folâtres qui ont mangé ma vie, qui sera de sortie au dernier
ces marâtres qui m'ont sali de haine, me taxant de malsaine et de vieillard d'obscène. Pour l'amour d'un bel âtre, si tendre et si tactile, je reste juvénile, tandis que mon aura ne pâlit toujours pas. Pour l'amour de la scène, je fus la reine des reines, et d'année en année, je me serai damné.
Jérôme Pradon, pour l'amour du théâtre, extrait de l'opéra de Sarah, accompagné par Damien Roche, une œuvre parole, musique, mise en scène d'Anna Marcel. Dimanche prochain, vous découvrirez un autre extrait inédit de ce spectacle en live, puisque notre prochain cabaret 42e rue fêtera en musique Anna Marcel avec ses amis Bernard Allan, Fabienne Guyon, Jacques Verzier, mais aussi Marie Aupert, Neïma Naouri, Alexandre Fetrouni. Ça sera la deuxième partie de cette 42e rue consacrée à Anna Marcel. Merci pour ces enregistrements, Grégory Antoine.
Merci Laurent d'avoir fait vivre sa mémoire.
On se retrouve dimanche prochain, c'est un grand plaisir. Sur la page de 42e rue, vous retrouverez la programmation musicale de l'émission, des vidéos, des spectacles d'Anna Marcel. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur l'application Radio France et de nous suivre sur les réseaux sociaux. 42e rue, France Musique, Laurent Vallière, Taïsia, Froidure, Éric Boisset, Céline Parfenoff. On vous souhaite un très bon dimanche. Dans un instant, vous retrouvez Marina Chiche.
Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.